On passe au dossier de Radio Okapi. Au Kasaï central, une soixantaine des fonctionnaires de Chimbulu accusent le comptable d'État local de ponctionner quotidiennement leur salaire. Ils affirment qu'aucune explication n'est fournie jusque-là sur la coupe de 10 000 francs congolais sur les salaires de certains agents de l'État. Des accusations rejetées en bloc par le comptable incriminé. Un dossier est signé François Kadima.
Un agent de l'État de Chimbulu nous a révélé que son salaire et celui de ses camarades passaient par la Tembe. Mais suite aux violences que la région a connues, le gouvernement avait décidé en janvier dernier de confier la paye au comptable d'État. Depuis ce temps, nous a-t-il confié, les agents de l'État de Chimbulu constatent que leurs salaires sont ponctionnés sans explication.
Nous avons constaté une soustraction exorbitante sur le salaire de chaque agent de l'État ici à Chimbulu. Il y a d'autres agents qui demeurent impayés depuis le mois de janvier 2017. Le système de manipulation d'argent par les comptables ont commencé à payer pendant d'autres 3 mois, d'autres 4 mois, d'autres 5 mois. Quand le comptable vient payer et que ses agents réclament les arrières de leur salaire, il leur dit que l'argent est déjà versé dans les trésors publics, mais sans aucun document de reversement à la banque.
Interrogé, les comptables d'État à Chimbulu indique qu'il n'a pas le droit d'opérer les ponctions sur les salaires des agents de l'État. Kasonga Dilunga.
Mentionné sur des listings. Des listings viennent de l'idée finance. On retient pour la pension, pour l'impôt. Sur le même listing là, il y a les colonnes bien mentionnées.
Face à cette situation, la représentation locale de la nouvelle société civile congolaise voudrait qu'après le retour de la paix, les salaires passent à nouveau par la banque Tembe, qui déployait souvent ses agents mobiles à Chimbulu pour payer les agents de l'État. Augustin Mukenge Chabantu.
Que l'État puisse remettre l'argent à la banque Tembe et que les comptables de l'État puissent remettre les reliquats que les agents de l'État sont en train de réclamer, et les militaires, et les policiers, et les enseignants.
Au comité de suivi de la paye des agents et fonctionnaires de l'État, on s'active pour relancer rapidement la paye à travers les circuits bancaires. Son président, Jean-Louis Kayembe, indique que d'ici janvier 2018, les opérations de paye des agents et fonctionnaires de l'État passeront par les banques commerciales comme par le passé.
Les banques ont repris, nous ont contactés pour nous dire que les conditions sont réunies pour que puissent reprendre la paye. C'est comme ça que nous avons remis les fonds entre les mains des banques pour continuer la organisation. Ce que les agents sont en train de connaître pour le moment, ce sera en plus des pratiques qu'on a décriées par le passé, qui a poussé les gouvernements à bancariser. Et nous pensons que dès janvier 2018, tous les effectifs, les agents qui étaient bancarisés, seront payés par les banques.
Jean-Louis Kayembe explique également que la décision de débancariser momentanément la paye des agents et fonctionnaires de l'État a été prise pour l'ensemble de l'espace Kasaï à la suite des violences liées au phénomène Kamuina-Nsapu. Selon lui, les banques commerciales ne pouvaient pas opérer dans les zones insécurisées. De Kananga, François Kadima, Radio Okapi.
L'invité.
À Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, une mission de matérialisation des limites des zones de développement rural vient de séjourner dans les concessions forestières de la Côte-Trefort et de la CFT à Bafouassende et à Ubundu. Ces limites sont souvent à la base des conflits avec les agriculteurs locaux. Les conclusions de cette mission avec le sociologue et consultant au projet d'appui à la gestion des forêts au ministère de l'Environnement, Philippe Nzita, s'entretient avec Godlive Omondo.
Philippe Nzita, bonjour.
Bonjour madame.
Qu'est-ce qui ressort de cette mission ?
Pour dire ce qui ressort de la mission, j'aimerais expliquer d'abord les bien fondés de la mission. Le code forestier exige aux concessionnaires forestiers d'élaborer leur plan d'aménagement pour faire de la gestion durable des forêts. Et ce plan d'aménagement, lorsqu'il est élaboré, approuvé au niveau du ministère de l'Environnement, il est présenté aux populations locales et autochtones qui doivent aussi donner leur approbation. Il est prévu aussi dans les plans d'aménagement de définir plusieurs séries dans la concession forestière. Par exemple, la série des productions, là où l'exploitant doit exploiter son bois, la série des développement rural où les populations doivent jouer derrière terre en termes des activités agricoles. Lorsqu'on présente les plans d'aménagement, ces limites-là ne sont pas matérialisées sur le terrain. C'est pourquoi au niveau national, il y a un guide qui est en élaboration sur la matérialisation effective de ces limites-là. Et donc, comme il y avait une demande aussi de la population de Bévenzeke dans les sites de Côte-Fort 018/11 qui voulait s'assurer où passe sa zone de développement rural, l'État a répondu aussi à cette demande-là en identifiant leur site comme site pilote. En plus des CFT qui est aussi à côtés. Et donc, cette mission nous a permis aujourd'hui de commencer les débuts des travaux qui consistent à matérialiser effectivement ces terrains avec des représentants des communautés, de l'administration locale, du secteur forestier, et aussi des représentants de l'entreprise. Nous avons matérialisé ces limites-là de manière effective et ça va continuer dans les jours qui vont venir.
Et qu'avez-vous constaté par rapport aux relations entre le concessionnaire et les autochtones?
Lorsqu'on parle des relations entre exploitants et population, chacun a sa manière d'observer ça. Mais ici, la tension, elle est un peu bonne entre les deux parties. Je sais que c'est autour des clauses sociales qu'il y a parfois des problèmes, où les populations disent que l'exploitant ne respecte pas les accords. De l'autre côté, l'exploitant dit aussi que les populations ne jouent pas pleinement leur rôle. Mais ça n'a pas été la question dans le cadre de cette mission. Nous, on a constaté que les choses ont marché.
Et qu'en est-il de la matérialisation de ces zones de développement pour que chaque partie puisse quand même recouvrer ses droits?
Justement, il y a la question des droits parce que l'exploitant forestier, désormais, il sait où est-ce qu'il doit exploiter son bois. Les populations aussi savent comment jouir de leurs zones qui leur est confiée par l'État congolais. Mais aussi, le constat qui a été fait, c'est que dans ces zones-là, développement rural, il y a des fonds agricoles qui ont été identifiés. Il y a des concessionnaires privés qui sont identifiés à la hauteur de plus ou moins 50 concessionnaires pour les deux concessions. Et il y en a plus du côté contrefort. Et ça, c'est aussi une question pour nous de réveiller l'autorité pour qu'ils puissent suivre en descendant sur le terrain, s'assurer d'abord comment ces gens-là se trouvent là-bas avec des espaces aussi importants. Parce que si on ne sait pas gérer cette question-là aussi des concessionnaires, ces zones de développement rural vont disparaître et les séries de production seront menacées. Quand les séries de production sont menacées, c'est les clauses sociales qui sont aussi menacées parce que les clauses sociales aujourd'hui, c'est à travers lesquelles les gens ont les espaces socio-économiques.
Et qu'est-ce que vous allez proposer à l'autorité?
C'est d'abord de faire une descente sur le terrain pour s'assurer de nos recommandations. C'est vrai ou c'est faux? Ils vont descendre sur le terrain pour faire le suivi de ces concessionnaires-là, savoir qui a les documents et quel genre de documents. D'abord ça, comme démarche, en premier lieu. Deuxièmement, il faut qu'il y ait des appuis à ces populations pour la meilleure gestion des saisons de développement rural. Parce que s'il n'y a pas une meilleure gestion des saisons de développement rural, les séries de production qu'on est d'ici une dizaine d'années, d'ici 20 ans, une forte pression et l'État congolais perçoit la taxe sur la superficie de la part de ses concessionnaires forestiers. Et donc, la bonne gestion au niveau des ZR protège aussi les séries de production du bois d'œuvre.
Une façon de dire qu'il faut un plan d'accompagnement de ces populations pour mettre en valeur ces zones de développement rural.
Justement, partant de la problématique qu'on avait constatée sur le terrain, qu'il faut arriver à accompagner ces populations-là dans la cartographie d'abord des ressources qu'il y a dans la zone de développement rural et mettre en place un plan simple de gestion. Et dans la mise en œuvre de ce plan de gestion, c'est là où on doit redéfinir les rôles des autorités coutumières, les rôles de l'AT, les rôles des membres des communautés. C'est là où il faut redéfinir même les nouvelles politiques d'affectation des terres.
Est-ce qu'il y a eu des recommandations à l'issue de la mission?
Les recommandations tournent autour de la question des concessionnaires privés. Dans les sites CFT, on trouve un concessionnaire privé qui est à 4000 hectares de demandes en terre et on trouve des pépinières qui sont mises en place pour mettre un palmeraie. Ça, il faut que l'État puisse suivre pour savoir comment gérer cette question-là parce que déjà ces concessionnaires privés et dans les sites des contreforts. Il y en a plusieurs, les autorités même de la province qui sont impliquées dans cette histoire des concessions privées autour et dans les concessions déjà attribuées aux exploitants forestiers. Ça, c'est une lourde recommandation pour nous que l'État congolais au niveau plus haut puisse se mettre debout pour regarder cette question-là avec un œil un peu plus. C'est excellent.
Philippe Nzita, je vous remercie.
Je vous remercie.
Okapi Sport. Il est 18h24 à Kinshasa. C'est la page des sports avec vous, Nanambala. Bonsoir.
Bonsoir Pascal Masereka.
Commençons par les compétitions interclubs de la Confédération africaine de football. Les quatre clubs congolais qui sont engagés sont fixés sur leurs adversaires.
Oui, Mazembe et DCMP ont été exemptés du tour préliminaire respectivement de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération et n'entreront qu'au tour suivant, c'est-à-dire 16e de finale qui est prévu au mois de mars 2018. L'équipe de Lubumbashi recevra le vainqueur du match entre Ngoya Club de Comores et União Songo du Mozambique. De son côté, l'équipe de Kinshasa accueillera le gagnant du match New Star du Cameroun, club Niefang de la Guinée équatoriale, tandis qu'Eve Club, qui débutera en préliminaire de la 22e Ligue des Champions, recevra Bifoward du Malawi le 28 février 2018. Pour l'entraîneur de Eve Club, Florent Ibengué, l'objectif reste le quart de finale, même s'il ne connaît pas son premier adversaire. Il est au micro de Nok Matondo.
Comme d'habitude, un tirage au sort n'est bon qu'après. Là, on s'en va au Malawi. Un adversaire qu'on ne connaît pas. On va découvrir à nouveau l'Afrique australe. Donc à nous de faire en sorte de passer ce tour. Notre objectif, c'est de rentrer dans la phase des quarts. Donc il faudra prendre des dispositions pour connaître cet adversaire, parce que quand on ne connaît pas les adversaires, on se met en difficulté. Donc on va essayer de regarder sereinement comment on va faire pour pouvoir prendre des renseignements sur cette équipe et la jouer comme il faut pour passer le prochain tour.
Emmanuel Maignan, quant à elle, entamera le tour préliminaire par le déplacement chez Mangasport. Là, c'est en fin février 2018 toujours. Championnat national de football division 1. On a joué cet après-midi au stade de Raphaël de Kinshasa. Dessampé a été accroché par RCK sur la marque d'un but partout. Demain jeudi, le duel Katangé opposera Lupopo à Mazembe au stade de Kibasa Maliba. Et puis, la FECOFA tiendra son assemblée générale ordinaire et élective le 23 décembre prochain. Pour ce faire, la commission électorale a publié cet après-midi les noms de candidats désirés de diriger le football congolais durant les 4 prochaines années. Constant Omari, le président sortant, sera face à Jean-Claude Mwamba. Notez également qu'aucune candidature féminine n'a été annoncée, donc n'a déposé sur le 20 retenu. Eric Mvumbi, rapporteur de cette commission, nous cite ici le nom de candidats.
La commission électorale de la Fédération Congolaise de Football Association, elle a enregistré les dossiers des candidats ci-après. Omari Selemani Constant, président. Mwamba Mukundi Jean-Claude, président. Chimanga Mwamba Donatien, premier vice-président. Masamba Malunga Jean-Didier, deuxième vice-président. Madika Kazadi Alex, deuxième vice-président. Bondembe Bokanyanga Roger Bobo, troisième vice-président. Binamungu Rou Bimbura Théobald, quatrième vice-président. Tambolou Bamba Jean-Marie, cinquième vice-président. Chomba Fariala, sixième vice-président. Kabamba Mwana Boute, sixième vice-président. Bolo Kibin Mubial Alfred, vice-président ou membre. Kande Kalombo Alex, membre. Kibangu Mbwangit Natalis, membre. Bapumbudia Wangoi Maurice, membre. Kuzituka Mandunda Anakle, membre. Kamwena Lubamba Jean, membre. Nonga Osango, membre. Munda Kapambwe Maurice, membre. Bissimwa Nishamba Dismas, membre. Enfin, Kayoyo Umbela Simon, membre.
Et on termine par le basketball avec New Generation qui jouera le club nigérian des Canopillards ce soir à 20h en match de la troisième journée phase de groupe de la 23e édition de la Coupe d'Afrique de club champion de basketball qui se déroule à Rades en Tunisie. Mazembe de son côté, troisième sortie, troisième défaite cette fois face à Ferroviário Beira de Mozambique. Score final 72-79.
Terminons par le taux d'échange indicatif de la Banque Centrale du Congo. Notez que le dollar s'achète aujourd'hui à 1591 francs congolais et se vend à 1622 francs congolais. Ce journal est terminé. Avant de nous quitter, notez les deux principales nouvelles de ce soir. Arrestation à Kinshasa des dirigeants de la DGIRCA, du secrétaire général de l'urbanisme et habitat, du conservateur des titres immobiliers à la Gombe et de l'agence congolaise de grands travaux auprès de la société Zénith. Le conseiller du chef de l'État, Luzolo Bambi, le poursuit pour détournement de fonds, spoliation et vente des immeubles de l'État. Le conseiller juridique de feu, Étienne Tshisekedi Mulumba, appelle la Cour constitutionnelle à déclarer la démission du Premier ministre congolais Bruno Tshibala-Nzenze pour haute trahison. Michel Eboma lui reproche les cumuls des fonctions dans un parti politique qu'il vient de créer à Kinshasa et qui est différent de l'UDPS. Ce journal est terminé. Merci d'avoir écouté. Merci à Babel Mpongo Massimango qui l'a coordonné sous la supervision de Pelé Kipela Mondo.